ce soit vraiment ta parole et qu'elle puisse s'inscrire dans nos cœurs. Tu veux nous donner, Seigneur, ta ligne de conduite, ce que tu désires pour chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es fidèle. Merci, Père. Amen. Voilà. Donc, je n'aurai pas une prédication par rapport aux mamans. C'est vrai qu'on aurait pu faire cela. Bon, ce sera pour une autre fête des mères ou un autre moment. Mais on pense à vous, hein. Et ça, on le rappellera tout à l'heure. Non, le thème de ce message aujourd'hui, c'est la séparation dans la Bible. La séparation. Et c'est un thème majeur. Un thème majeur. Alors, là, c'est par exemple vu très négativement, hein. Ça, je sais, mais ici, c'est un thème très positif et très intéressant parce que ça fait partie vraiment de la parole. La séparation, alors, bien sûr, il n'est pas question de séparer les couples, il n'est pas question de séparer, je ne sais pas, des gens qui s'aiment. Etc. Non, c'est pas ce genre de séparation-là. Hein. La séparation ici, il est vu comme principe de la création. Dans la création, il y a eu une succession de séparations. Et on retrouve ces principes-là dans l'écologie. Très étonnant, hein. Des gens qui, pour beaucoup, en tout cas pour certains, ne croient même pas en Dieu, ils retrouvent le principe de la séparation. Séparer des détritus n'est pas nouveau, hein. On sait bien que c'est une catastrophe à long terme si on ne sépare pas les détritus avec... si on mélange tout dans la nature, plastique, etc., nous voyons dans les océans, c'est une catastrophe le mélange des plastiques et de l'eau, etc. On pourrait faire cela avec d'autres produits qui se trouvent dans la terre, qui se trouvent un peu partout. Ça peut être une catastrophe. Séparer, c'est préserver la nature créée par Dieu. C'est important. Mélanger, c'est avilir ce trésor que Dieu nous a donné, cette création qui est magnifique. Et ça retourne au tohu-bohu, hein. Si on commence à mélanger, c'est grave. Et dans nos vies aussi, on parlera aussi de mélange. Dieu n'est pas pour le mélange. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent être nocives. Sur le plan spirituel, séparer est une action de l'Esprit-Saint. Vraiment une action de l'Esprit. Nous allons voir dans la Bible comment Dieu sépare, ce qu'il sépare et pourquoi il sépare. Ensuite, nous étudierons en quoi la séparation nous concerne. Alors, comme je l'ai dit, la séparation, c'est un principe de la création. Et on va le voir dans Genèse au chapitre 1er, au verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Voilà, première séparation, il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un jour. Dieu dit... Verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit donc cette étendue, sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus. Il en fut ainsi. Donc Dieu sépare aussi les eaux qui sont sur la terre, les eaux qui sont dans le ciel, les eaux qui sont sous la terre. Il y a une séparation. Hein? Et il ne va pas s'arrêter à cela, mais il va aussi, bien sûr, séparer les eaux sur la terre par rapport aux terres. Les terres, ce seront les continents, les îles, etc. Et les mers, les océans. Il y a une séparation, une limite que les mers ne doivent pas franchir par rapport... Enfin, vous savez que à ce niveau-là, on pourrait peut-être reparler du réchauffement climatique et que les mers vont rentrer un petit peu... sur les terres à certains endroits. Mais je veux dire qu'il y a quand même eu une séparation entre les eaux et les terres, une fois qu'elles ont été mises à découvert. Alors, non seulement cela, verset 14, Dieu dit qu'il y ait des astres dans l'étendue céleste pour séparer le jour et la nuit. Donc Dieu va aussi séparer le jour et la nuit. Hein, pas seulement la lumière et les ténèbres, parce que Dieu est lumière. On le voit aussi dans la parole que Dieu n'a pas besoin forcément du soleil pour éclairer. Hein. Il est lumière, il a séparé la lumière des ténèbres avant même d'avoir créé le soleil et les étoiles. Que ce soit des signes pour marquer les temps, les astres dans l'étendue céleste, les jours et les années, que ce soit des astres dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, il en fut ainsi, verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu a donc séparé la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Et on voit quatre choses. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Dieu sépare les eaux d'en bas et les eaux d'en haut qui sont au-dessus. Dieu sépare les eaux des terres et Dieu sépare le jour de la nuit. Mais ça continue dans la parole de Dieu. Il n'y a pas que ça. Ça continue. Et on voit cela avec Noé. Séparation entre la foi et l'impiété. Dieu veut séparer foi et impiété. Il y a quelque chose de très différent. On le voit avec Noé et sa famille par rapport à ceux qui ont entendu sa prédication dans Genèse 6, versets 5, 6 et 11 à 13. On voit cela à partir de verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était corrompue, car toute chair avait une conduite corrompue sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « J'ai décidé de mettre fin à tous les êtres vivants, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. » Pourquoi Dieu a-t-il séparé la famille de Noé par rapport au monde ancien ? C'est la question, hein. D'après Hébreu, dans le Nouveau Testament, Hébreu chapitre 11, verset 7, on voit ceci, « Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fut sauvé avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. » Alors, il y a quelque chose qui différencie Noé de la génération qui pouvait l'entourer, c'est sa foi. Sa foi. Il avait foi en Dieu, il avait une crainte respectueuse de Dieu. Bien sûr, il obéissait parce qu'il avait la foi, il obéissait à ce que Dieu voulait lui montrer. Et donc, cette foi-là l'a distingué de sa génération. Et donc, il va se séparer avec le mal. Parce que la foi en Dieu va entraîner qu'on se sépare du mal. Qu'est-ce qu'ils avaient comme problème ? Ils avaient des pensées méchantes dans leur cœur. La méchanceté, c'est de mettre Dieu au second plan, ou de carrément l'oublier, de carrément, à la limite, dire qu'il n'existe pas. Et ça, c'est de la méchanceté pour Dieu, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre. On remet toujours cela en question aujourd'hui. Hein. Il sépare cet homme qui a foi en lui, qui le respecte et qui le craint au point de rejeter le mal de sa vie. C'est ça, il se sépare, en fait, Noé, comme ceux qui ont foi en Dieu dans la Bible, se séparent du mal. Quand on apprend à connaître Dieu, ben, on va découvrir quelque chose de la part de Dieu qui fait qu'on se sépare du mal, parce que Dieu est totalement séparé du mal. Et on peut le voir aussi avec les anges rebelles par rapport aux anges fidèles. Dieu a séparé les ténèbres de la lumière, mais il a séparé aussi le diable du royaume de Dieu. C'est deux mondes opposés, deux mondes différents, deux mondes complètement opposés. Dieu demande la sainteté, le diable par orgueil, et donc est tombé dans le mal, il a voulu être aussi grand que Dieu, même au-dessus de Dieu, et il est donc tombé. Et tous ceux qui iront contre Dieu tomberont, ça c'est clair. Alors, on voit aussi Lot avec la ville de Sodome. Dieu a séparé Lot qui vivait dans la ville de Sodome. Dieu aurait pu le laisser là, mais comme Dieu allait détruire Sodome et Gomorre, il a voulu lui épargner sa vie puisqu'il était le seul juste. Rappelez-vous la prière d'Abraham en faveur des justes, de 10 justes. Ça, c'était la dernière prière d'Abraham, mais malheureusement il n'y en avait qu'un, c'était Lot. Mais Dieu a séparé Lot, Dieu a fait sortir Lot de ces villes injustes qui se conduisaient très très mal, qui étaient opposées à Dieu totalement. Il protège le juste de l'injustice et la séparation met en évidence les limites entre le bien et le mal. Et le monde aujourd'hui ne veut plus ces limites. On est en train de repousser les limites, ces limites-là que... vieille borne ancienne de la parole de Dieu. Avant, on jurait sur la Bible dans les tribunaux. Maintenant, la Bible, on l'a retirée, évidemment, ça n'a plus. Donc, on est dans une société qui établit des normes culturelles de notre époque, qui n'est pas de l'époque ancienne, etc. Donc, tout ça est activé autrement, mais pas par rapport à la parole de Dieu. Abraham, on voit qu'Abraham, Dieu lui demande de se séparer aussi. Et il va se séparer, c'est ce que Dieu lui demande, c'est de se séparer des idoles de son père. Et on le voit, Genèse 12, verset 1er, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai. Sépare-toi de la maison de ton père. Est-ce que Dieu veut vraiment qu'on se sépare de notre famille? Les sectes jouent aussi avec ça. Il faut se séparer, tout est mauvais, il n'y a que nous qui sommes bons. Attention, dans ce genre de séparation, il y a à boire et à manger. Donc, ici, il n'est pas question de se séparer du restant du monde. C'est plutôt une séparation par rapport à l'idolâtrie de son père. Terah était idolâtre comme les contemporains d'Abraham. Et donc, il devait se séparer des idoles de son père. C'est ça. En allant dans le plan de Dieu, en allant dans le sens de ce que Dieu demandait, il allait vers ce Dieu unique, il écoutait ce Dieu unique, il obéissait à ce Dieu unique. C'était complètement contradictoire avec les civilisations de l'époque, les sociétés de l'époque qui étaient des sociétés idolâtres. Et on le voit dans Josué 24, versets 14 et 15. Josué dit ceci au peuple. Donc, il donne un avertissement important. Il donne un choix à faire par le peuple d'Israël. Et Josué, donc, il a conduit Israël dans la terre promise. Vous savez que Moïse a fait sortir le peuple hébreu de l'esclavage pour le conduire dans la liberté, mais il devait d'abord faire un apprentissage dans le désert, ça a duré 40 ans, apprendre à mettre sa confiance en Dieu, 40 ans. Pour le peuple, c'est seulement les enfants qui prendront possession du pays de Canaan sous la conduite de Josué. Et Josué devient vieux, il est au terme de sa vie, quasiment, et il donne un héritage, un conseil important. Et quel est le conseil de Josué qui est un bon conseil pour nous? Eh bien, on le voit au verset 14 du chapitre 24. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc il y a un choix à faire entre les dieux que servaient anciennement les pères et le Dieu qui s'est révélé à Abraham, hein, qui s'est révélé aussi dans la succession. Hein. Et nous avons un choix entre Dieu et les idoles. Il y a une séparation entre Dieu et les idoles. Si nous voulons servir Dieu, nous devons abandonner les idoles. Vous voyez, c'est important. Alors, la séparation est un principe d'obéissance dans la loi de Moïse. C'est un principe dans la loi de Moïse. Et donc, vraiment, Israël a été enseigné avec des principes de séparation. Rien à faire. On ne pouvait pas prendre toutes les viandes. Il y avait des animaux impurs, des animaux purs. Mais tout ça, c'était pour faire comprendre qu'il y a une séparation. D'accord ? Aujourd'hui, on peut manger du porc sans être condamné par Dieu, d'accord ? Mais il y avait un enseignement derrière cela. C'est ça qui nous intéresse. Lévitique, chapitre 20, verset 26, dit ceci. « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Je vous ai séparés des peuples. Israël est un peuple à part, mis à part, pour servir Dieu. Et c'est vraiment un peuple particulier, et mis à part que l'ennemi a toujours voulu le détruire, mais mis à part parce qu'il allait répondre aux exigences de Dieu, il allait servir le vrai Dieu. Et ça, c'était vraiment très important. Et ce vrai Dieu, il est saint. Vous serez saint. Voilà une caractéristique importante. Vous serez saint car je suis saint. Et la sainteté, c'est s'abstenir du mal, dans tous ses sens, car je suis saint, moi, l'Éternel, je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi, que nous appartenions. Et Israël, donc, vivait cette séparation, parce qu'il servait un Dieu unique, un Dieu qui est saint. Hein? Et toutes les lois nous rappelaient au peuple qu'il était saint. Alors, la séparation, c'est aussi le principe de l'Église. L'Église, en grec, c'est « ecclésia » du verbe « ekkaleo », c'est « appelé hors d'eux ». Nous sommes appelés hors d'eux du monde pour former une entité nouvelle qui est l'Église. Des gens mis à part. Des gens qui sont appelés à être saints comme Dieu, parce que ce qui était demandé dans l'Ancien Testament est toujours demandé dans le Nouveau. Il n'y a pas de différence. Alors, l'Église est appelée à être séparée du monde, de l'esprit du monde et de sa convoitise. Donc, Dieu nous appelle non pas à sortir du monde, parce que nous sommes toujours dans le monde, mais en tout cas, être séparé de l'esprit du monde, l'esprit qui fait que le monde tourne après des choses, des valeurs, recherche des buts qui ne sont pas exactement les buts que nous cherchons. Si nous cherchons la gloire de Dieu, le monde ne cherche pas forcément la gloire de Dieu. D'accord ? Ils ont d'autres buts, d'autres choses. Et on peut rencontrer les idoles de notre temps. Les buts du monde, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être l'argent, c'est peut-être la gloire personnelle, ça peut être de ce genre de le confort, je sais pas, des choses, l'intérêt personnel, etc. Le monde, c'est cela. Et nous avons d'autres principes. Alors, on va voir, est-ce que nous sommes appelés à être séparés totalement du monde ? Est-ce que nous sommes appelés à être totalement séparés ? Alors, pour répondre à ça, on va lire dans Jean chapitre 17, verset 14. « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Alors, Dieu n'est pas contre le monde, hein, il veut en tout cas sauver le monde, d'accord, et il nous envoie dans le monde, mais Attention, nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Hein? Et je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, dit Jésus à son père, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, parce que en Jésus-Christ, nous avons l'esprit du ressuscité en nous. Le monde n'a pas l'esprit du ressuscité. C'est ça la grande différence. Et on ne travaille pas pour le même maître, on ne travaille pas dans les mêmes objectifs, dans la même. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se sépare totalement d'eux, parce que nous sommes placés dans le monde justement pour être un témoignage, pour apporter l'amour de Dieu autour de nous. Mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est évident. Et Dieu nous a mis à part pour que nous puissions le servir, lui appartenir. Et que nous soyons comme lui, qui est saint. Ce qu'il veut, c'est que nous soyons saints, même sans défaut. Au travers du sang du Fils, nous sommes purifiés. Mais il veut que nous travaillons à notre sanctification. Il veut que nous... C'est un travail journalier. Le travail, c'est la prière quotidienne. Le travail, c'est la lecture de la parole. C'est une conduite qui se veut irréprochable. On recherche Dieu, et non seulement pour apparaître comme étant chrétien, mais pour être à l'intérieur de nos vies comme chrétiens, à la ressemblance du Christ. C'est ça que Dieu veut. La séparation, c'est un principe de sanctification du croyant. Il est mis à part pour Dieu. Dieu veut travailler nos cœurs. Les termes kadosh en hébreu, agios en grec, peuvent se traduire par mis à part. Être saint, c'est l'opposé d'être souillé. Alors c'est vraiment une opposition. Donc, forcément, être saint va s'opposer à la souillure. Et ça, c'est très important. Être saint, c'est être sans tache, ni rite, ni rien de semblable. On le trouve dans Éphésiens 5, versets 26 et 27. Et on voit cela dans des versets qui sont magnifiques à propos du couple. Donc, Éphésiens 5, versets 25... Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. L'amour, c'est l'accomplissement de tous les commandements. Et ça, c'est ce qui doit devrait nous caractériser, c'est l'amour, parce que ça reprend l'ensemble des commandements, sont concrétisés par l'amour. Et ce qui est très important et marquant, c'est le rôle que joue la parole de Dieu. Jésus a sanctifié et purifié par l'eau et la parole, sa parole. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Hein? Et les disciples, c'est ceux qui se laissent transformer par la parole. C'est elle qui nous libère, c'est elle qui nous transforme par l'action de l'Esprit Saint et par un acte volontaire d'obéissance, de soumission à cette parole. Il y a des transformations qui sont engendrées dans nos vies. Ça, c'est l'œuvre de la sanctification. Vivre avec Dieu, vivre dans sa parole, vivre dans l'intimité du Dieu qui nous aime, c'est ça qui nous sanctifie. C'est la parole du Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui en nous engendre une purification de par rapport à nos vieilles habitudes. Nous parvenons à les lâcher, nous parvenons à réussir à être comme Dieu demande progressivement. Hein. Il peut y avoir des ratés au départ et des dents de scie, des difficultés, mais à un moment donné, eh bien, Dieu nous donne de progresser et d'aller de progrès en progrès pour voir que l'œuvre de Dieu se réalise dans nos vies comme le Seigneur nous le montre. Alors, est-ce que nous vivons cette séparation par rapport au péché dans nos vies? Est-ce que nous vivons cette séparation dans nos vies par rapport au péché? Aujourd'hui, dans notre société, le genre, en tout cas le masculin féminin, sont remis en question. Hein. On remet en question beaucoup de choses. On peut être un homme ou une femme, mais on peut changer. Et puis, ou être les deux à la fois, etc., etc. Hein? Bon, il y a des combats qui sont valables. Hein. Par exemple, je pense que le combat des féministes pour avoir une égalité entre hommes et femmes, c'est pas forcément mauvais. Il y a eu quand même des exagérations dans l'histoire. Et donc, tout n'a pas été mauvais. Mais dans le sens où on ne sait plus si on est vraiment un homme ou si on veut être une femme, on arrive à des dérives. Dieu a bien séparé les sexes, hein. Et il y a ça, mais il n'y a pas que cela. Il y a bien sûr dans nos vies ce qui se passe dans la société en général se retrouve tôt ou tard dans l'Église. C'est ce qu'on a pu constater. C'est que si on ne fait pas attention en tant qu'Église, en tant que chrétien, ce qui se passe dans l'Église se reproduit. Ce qui se passe dans le monde, pardon, se reproduit dans l'Église. Par exemple, le fait de garder une forme religieuse, de piété. Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens dans la société qui seraient plus ou moins d'accord avec le fait qu'on aille dans une église, qu'on ait un Dieu, etc. Mais maintenant, je pense qu'il y a quand même un mélange qui se produit. C'est-à-dire que le péché n'est plus vraiment péché. Des choses qui étaient condamnées anciennement ne le sont plus, etc. Beaucoup de tabous sont tombés, beaucoup de choses. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient nécessaires. Peut-être qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bien mises. Hein, il y a une liberté, c'est vrai qu'il y a plus de liberté aujourd'hui, on ose plus dire et s'affirmer, être ce qu'on est en réalité. Il y a plus de liberté dans la société, on va dire. Mais, par rapport à avant, où il y avait des schémas dans lesquels on devait rentrer, hein, notre société imposait des schémas. Et donc, par rapport à ces schémas-là, ils ont complètement éclaté, plus de problèmes. Mais par rapport à Dieu, il y a quand même des fameux problèmes. Parce que, Dieu ne veut pas qu'il y ait n'importe quoi dans nos vies. Le mélange, comme on a vu au niveau de la pollution, c'est le mélange. Et dans nos vies, quand on accepte le mélange, un peu de péché dans nos vies, eh bien, certains diront c'est pas grave. Mais il faut, comme dit l'apôtre Paul, très peu de levain pour faire monter la pâte. Et donc, un peu de péché dans notre vie, et vous savez, il ne faut pas grand-chose comme quantité de cyanure dans un verre d'eau pour nous faire mourir. Et c'est pas... la quantité d'eau a beau être grande, mais très peu de cyanure peut nous faire mourir. Hein? Le contraire de la séparation, c'est le mélange, le compromis. Le compromis. Apocalypse, chapitre 2, verset 14... Donc Jésus reprend la communauté de Pergame en disant ceci, verset 14, « Mais j'ai contre toi certains griefs, tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam, il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. » Alors, qui est ce Balaam? Qui est ce Balak? Hein? Balaam était un prophète, on le voit dans Nombre 24 et Nombre 25, c'était un prophète, que Balak avait été trouvé, Balak c'est un ennemi d'Israël, et il voulait trouver une solution pour avoir la victoire sur Israël. Et il avait trouvé Balaam, qui était un prophète, et il lui avait demandé, contre forte somme d'argent, de maudire Israël. Et... il avait essayé à plusieurs occasions, montant sur une montagne, sur l'autre, etc., d'aller maudire Israël. Il n'y était pas arrivé parce que Dieu lui interdisait de le faire. Ce n'était pas possible de maudire, en tout cas. Mais il est arrivé quand même à ses fins en suggérant des mauvais, très mauvais conseils et en trouvant une occasion de chute en mangeant ou en faisant venir... les hommes, hein, ce sont des femmes des autres nations qui ont essayé de séduire les Israélites pour qu'ils couchent avec elles. D'accord? Faire à Israël des choses très offensantes parce que, à ce temps-là, Dieu demandait à Israël de, comment je vais dire, que les hommes trouvent des femmes dans les tribus d'Israël. Et même, si on vient d'une tribu, qu'on reste même dans la même tribu, etc. Et donc, il y avait une séparation par rapport aux gens de l'extérieur. Normalement, il ne pouvait pas y avoir de mariage entre des Israélites et des gens d'autres nations qui étaient idolâtres. Et on comprend très bien pourquoi, parce que l'idolâtrie serait rentrée très facilement. Et ça, c'est le conseil de Balaam, c'est justement de les faire, de les séduire au point qu'ils aient des relations avec des femmes étrangères et qu'ils commencent à faire de la débauche et finalement à manger des viandes sacrifiées aux idoles puisque ces femmes étaient idolâtres. C'était une invitation aussi à venir manger des viandes sacrifiées à leurs idoles et à les faire entrer aussi dans ce processus d'idolâtrie. Et ça, c'est le mélange. Et le diable, je vais dire, et notre société, notre monde nous invite vraiment au mélange. Et si on ne se fait pas attention, je peux vous assurer qu'on se fait bouffer. Que ce soit par Internet, par la télévision, par les relations que nous pouvons avoir avec les gens de notre société, on se fait avoir à leur influence. Pourquoi ? Parce que soit la parole de Dieu va nous influencer dans nos comportements, soit ce n'est pas elle qui va nous influencer, mais ne vous en faites pas, il y aura autre chose qui va nous influencer. Et si nous ne sommes pas forts dans la parole de Dieu, nous sommes inévitablement influencés par notre société. La façon dont les gens vivent à l'extérieur va se reproduire ici dans l'Église. Et nous l'avons vu par de multiples occasions que cette chose peut tellement bien arriver malheureusement. Et Satan propose des compromis comme seule issue de nos épreuves. Alors, les gens de Pergame, ils voulaient continuer à aimer Jésus. Et ils disaient oui à Jésus, d'accord ? Et comme nous, je pense que nous tous voulons dire oui à Jésus, nous voulons aimer Jésus. Mais le problème, si on a une ouverture dans notre cœur pour les idoles, alors on va aimer Dieu et aimer les idoles. On aime tout, quoi. Ce que le monde aime, on aime bien aussi. On aime aussi Dieu, donc on aime tout, quoi. Comme Salomon. Salomon, il aimait le Seigneur vraiment à fond. Mais progressivement, il va se laisser influencer par ses femmes. Il va commencer à leur faire des temples, enfin, plus ou moins à la fin de sa vie. Il va résister un certain nombre d'années. Il va être bon, hein, il va être vraiment ferme pendant un certain nombre d'années, puis il va se laisser aller. Et finalement, il va adorer les idoles. Mais il adorera toujours Dieu. Comprenez le truc. Donc il y a Dieu, il y a les idoles, mais ça marche ensemble, tout va bien, on mélange tout, on a un petit peu de mélange en soi, mais en final, on aime encore Dieu. Et Dieu veut que nous soyons totalement à lui. Et il y a un principe de séparation. C'est pas n'importe quoi. Servir Dieu, c'est pas mélanger Dieu avec des idoles. Il faut choisir. Et on revient au conseil de Josué. Choisissez qui vous voulez servir. Est-ce que c'est les idoles de Théra ou bien, les idoles de Théra et même les autres, plus actuelles, ou bien c'est le Dieu d'Abraham. C'est lequel que vous voulez servir. Et vous avez le choix. Faites ce que vous voulez. Et Jésus le disait aussi. Hein, et vous, est-ce que vous voulez encore me servir? Me suivre? Il parlait à ses disciples, est-ce que vous voulez encore me suivre? Vous n'êtes pas obligé, hein? Parce qu'il y a un choix à faire. Et parce que ça peut être difficile de faire certains choix. Parce que dans l'apparence, c'est exactement comme cet homme, ce jeune homme, qui semblait obéir à toute la loi. Et qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la vie éternelle? Et qu'est-ce que Jésus a vu chez cet homme? Il était riche. Et Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, donne tout ce que tu as aux pauvres et suis-moi. Et ça, c'est le truc qu'il avait caché en lui. Il ne savait peut-être même plus qu'il avait ce problème. Et ça le dérange fortement. Vraiment, là, on découvre, Jésus fait un éclairage sur une idole dans sa vie et ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas parce qu'il ne changera pas. Parce que pour lui, il était bon à tous les niveaux. Mais il y a juste ce truc-là. Et Dieu, il met l'emphase sur ce truc-là. Il y a un éclairage, là, un spot qui est allumé. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Et il y a des compromis qui semblent être la seule solution. J'ai pas beaucoup d'argent, je vais travailler en noir. Des compromis à tous les niveaux. Hein? Des gens d'église qui vont dans un bordel pour s'en sortir. Ils ont un problème à un moment donné, c'est pas trop grave, Dieu me pardonne. Et c'est des choses comme ça, de la malhonnêteté par rapport au fisc et plein d'autres situations qui peuvent arriver où il y a des compromis, où l'ennemi nous propose ses idées pour sortir de nos épreuves. Et c'est vrai que il peut y avoir la décadence, la dégradation, le déclin, toutes ces choses peuvent exister si on ne fait pas attention. Et des gens sont tombés, ils étaient droits, ils étaient justes. Et comme Salomon, on l'a vu, Salomon, au début d'une vie, il est vraiment un homme humble, et puis il devient orgueilleux, il se laisse aller, et il laisse entrer finalement l'ennemi au travers de sa porte d'entrée. Hein. Nous avons tous une porte d'entrée, la porte de notre cœur. Et Caïn, il avait un problème. Vous vous rappelez Caïn? Caïn, il avait un problème par rapport à son frère, il était jaloux. Et Dieu va lui donner un seul conseil. Hein? Le mal est tapis à ta porte, Caïn. Le mal, il est vraiment là. Hein? Genèse 4. Mais n'ouvre pas cette porte-là. Ferme-la. Ne laisse pas entrer le malin par cette porte. On pourrait peut-être aller voir dans je crois que c'était un magnifique conseil de Dieu à Caïn. S'il avait écouté le conseil, parce que Dieu lui donnait la possibilité de comprendre. Voilà, verset 6. Donc, Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre ?» Donc, Dieu avait préféré le sacrifice d'Abel par rapport au sien, ça lui avait fort déplu. Mais Abel, c'était avec foi. Hébreux nous parle le pourquoi du fait que le sacrifice d'Abel a été agréé par Dieu et non pas celui de Caïn. C'est parce que Abel s'est approché de Dieu par la foi. Et Caïn, c'est par religion. La religiosité ne plaît pas à Dieu, d'accord ? Et c'est une attitude de foi que Abel avait. Et c'est la foi qui plaît à Dieu. Et Dieu lui dit ceci, certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte, à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. C'est à toi de dominer sur lui. Donc il n'y a pas de concession, il n'y a pas de dialogue avec le mal, avec le péché, avec le diable, il n'y a pas de dialogue possible. On n'échange pas, on n'est pas en train de trouver un compromis entre nous et le diable. D'accord ? On va essayer de trouver une terre un truc qui pourrait passer. Non, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de relation. Le péché est couché à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Et là, le principe de séparation, c'est à nous à le faire. C'est à toi à dominer sur le péché. Ce serait facile, hein, que Dieu donne des limites et le diable ne peut pas aller plus loin, ou le péché dans nos vies ne peut pas aller plus loin. C'est à nous à donner ces limites. Nous savons ce que la parole de Dieu, la pensée morale, la volonté morale de Dieu, nous le savons, c'est la Bible qui nous en parle. C'est à nous à fermer cette porte et à dominer sur le péché. La lumière ne peut coexister avec les ténèbres, la sainteté ne peut cohabiter avec la souillure. Le diable propose aux chrétiens le mélange entre le bien et le mal, un petit mensonge pour se sortir d'embarras. Il y a des petits mensonges comme ça et on s'en sort bien, l'hypocrisie religieuse, les excuses pour ne pas accomplir la volonté de Dieu, l'abandon de la foi, et c'est progressif, hein, l'abandon de la foi, c'est pas en grand, hein, c'est des fois insinueux, le reniement de la vérité biblique, et on voit ça dans 2 Timothée 4, verset 4, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Beaucoup de gens se tournent vers les fables, ils se détournent de la vérité. Pourquoi ? Parce qu'on dilue la vérité. Et les fables, c'est ça, c'est une vérité très diluée. Et la vérité, quand elle commence à être diluée, fortement diluée, c'est plus vraiment la vérité. C'est une vérité qui est... Il n'y en a plus de teneur. Il n'y en a plus de teneur. Et la mondanité qui rentre dans l'Église. La mondanité, c'est l'esprit du monde auquel nous nous associons. Eh bien, ça, c'est quelque chose de mauvais. Les principes du monde ne sont pas les principes de Dieu. Et pour stopper la confusion spirituelle, il n'y a pas d'autre solution que l'humiliation et la repentance. Il faut se repentir, il faut s'humilier devant Dieu. S'il y a, je réalise qu'il y a eu un mélange dans ma vie. Il y a eu... On a laissé la porte ouverte au mensonge du diable, eh bien on peut se repentir. La parole de Dieu est capable de nous guérir, moralement et spirituellement. Alors nous pouvons, et ça c'est une bonne nouvelle, sortir de notre pollution spirituelle. Nous pouvons sortir de notre pollution spirituelle. Hein. C'est vrai que nous mangeons des choses qui peuvent nous faire du mal, hein, dans notre santé. Je réalise que les abeilles sont en train de mourir. 80% d'abeilles qui sont mortes à cause des produits toxiques qu'on met sur les fleurs. Vous achetez sur le marché des fleurs ou ailleurs et vous les placez chez vous et vous ne savez pas. Et même les vendeurs des fois ne savent pas qu'il y a des produits extrêmement toxiques qui vont tuer les abeilles. Ou les abeilles, parce que c'est fort important dans la chaîne, mais d'autres insectes, d'accord, toutes formes d'insectes de toute façon. Et nous mangeons, nous consommons sans savoir des choses qui nous font du tort au niveau de notre santé. Et bien, de la même manière, il y a des choses spirituelles que nous acceptons et qui viennent polluer notre mental, qui viennent polluer notre conscience, qui viennent polluer notre façon de voir et de regarder les choses. Donc, vraiment, c'est important. Je voudrais prendre un exemple pour sortir de cette pollution spirituelle dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate, car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord entre Christ et Bélial ? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant ? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Extraordinaire, hein? Il y a une question de séparation. Dieu veut vraiment que nous puissions sortir des modes de pensée, des façons de faire du monde. Et Dieu nous parle ici de ne pas former avec des incroyants un attelage disparate. Hein? Par exemple, dans le cas de faire un couple, ce qui est tout à fait normal, d'avoir le désir de se marier, n'allons pas chercher en dehors du peuple de Dieu des personnes qui vont nous entraîner aussi à aller encore plus mal dans nos valeurs, de quitter nos valeurs éventuellement ou d'avoir des problèmes. Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas que nous ayons des malheurs personnels, le malheur de mauvaises rencontres, de une mauvaise suite dans notre vie. Dieu déclare que nous sommes bénis. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est vrai, mais quand nous sommes deux à suivre le Seigneur, l'homme et la femme, hein, bien sûr, qui suivent le Seigneur. C'est extraordinaire, quand nous avons fait un choix venant de Dieu, dans cela, il y a une approbation de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a aussi se séparer de cette mode de façon de dire que, de toute façon, l'autre, il se convertira bien après. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on entend. Oui, mais c'est pas grave s'il ne s'est pas converti, il se convertira après. D'ailleurs, il y a tel et tel exemple. Mais c'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont décédés sans s'être donnés au Seigneur. Il y a aussi tous les combats qu'on ne dit pas et qui sont terribles. Hein. Et veillons à ne pas nous laisser polluer par les idées du monde. Je crois que c'est important. Dieu veut que nous soyons des vases d'honneur. Hein. Il est parlé, l'apôtre Paul nous parle de vases d'honneur. Et les vases d'honneur, ils se séparent de ce qui est vil. Pour être un vase d'honneur, il faut se séparer de ce qui est vil. Et si on se sépare de ce qui est vil, alors on sera comme la bouche de Dieu. On sera utilisé pour la gloire de Dieu. Et Dieu dit aux jeunes, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Elles vont vers la ruine. Toutes ces passions vont nous faire perdre du temps, vont nous détruire notre vie. Mais Dieu veut que nous puissions nous séparer de ce qui peut nous faire du tort, parce qu'il veut nous faire entrer dans son plan, qui est un plan de paix, d'amour et de bonheur. Dieu ne veut pas le contraire, que le bonheur pour nous, mais il y a des séparations nécessaires. Alors c'est peut-être une relation d'amitié qui peut être nocive pour nous. Hein, mais comme je l'ai dit tantôt, on est dans le monde, on n'est pas du monde. Et on peut créer aussi des liens d'amitié pour apporter la parole de Dieu. Mais si c'est nous qui sommes gagnés à l'influence de certaines personnes, Dieu nous dit aussi de faire attention. Si nous sommes influents, ça va. Si nous sommes influencés, ça ne va plus. Il faut savoir où est l'influence se situe. Est-ce que moi je suis capable d'influencer? Est-ce que je suis suffisamment sous l'influence du Saint-Esprit? Est-ce que je suis suffisamment sous l'influence de la parole de Dieu pour être capable à mon tour d'influencer les autres? Ou bien, au contact des autres, est-ce que c'est moi qui suis influencé par les pensées, les conseils des gens du monde? Je crois que c'est important. Est-ce qu'on pourrait prier par rapport à ça? Seigneur Père, tu nous parles de séparation, Seigneur. Nous voulons vraiment, Seigneur, te demander de...